RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde avec Pascal Hérault du quotidien L'Opinion, Marie-Roger Biloa d'Afrique Internationale et puis David Chombiano de l'agence de presse People Télévision. Et c'est autour de trois sujets cette semaine. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo acquitté à l'issue de son second procès en assise. Les six membres du jury populaire ont innocenté l'épouse de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo des charges de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Au Mali, la tenue de la conférence d'entente nationale malgré les boycottages en Syrie et en l'absence notamment de représentants des milliers de réfugiés. Et puis enfin, l'armée américaine qui va mettre fin à sa traque de Joseph Kony, le chef de la rébellion ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur, autrement dit la LRA. Alors d'abord, l'acquittement en Côte d'Ivoire ce mardi par un jury d'assises donc de Simone Gbagbo. L'ancienne première dame a été déclarée non coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le résumé de Sophie Roussy de TV5 Monde.
Acquittée, Simone Gbagbo reconnue non coupable de crimes contre l'humanité. L'ancienne première dame qui a pratiqué la politique de la chaise vide pendant plusieurs mois n'était pas présente hier soir à l'énoncé du verdict, tout comme ses avocats. Un verdict inattendu, surprenant de la part de la cour d'assises, alors que le procureur général avait requis la prison à perpétuité.
Le sentiment et l'émotion ont parlé. Ils ont estimé qu'elle n'était pas coupable de ces deux infractions. Peut-être ont-ils voulu aussi donner un signal fort aux politiques pour la réconciliation.
Simone Gbagbo était jugée pour son implication présumée dans les violences qui avaient éclaté à Abidjan au lendemain de l'élection présidentielle de 2010 et fait plus de 3000 morts. La dame de fer était soupçonnée d'avoir joué un rôle d'influence en coulisses. Pour les associations de victimes, son acquittement est difficile à accepter.
Le gouvernement Ouattara est en train de s'inscrire dans la promotion des auteurs de crimes et dans la promotion de l'impunité. Cette justice ivoirienne a démontré qu'elle n'avait pas la volonté de traduire Simone Gbagbo et de juger Simone Gbagbo et de la condamner pour les faits qui lui sont reprochés. Nous demandons immédiatement l'exécution des mandats d'arrêt de la CPI à l'encontre de cette dernière.
Simone Gbagbo purge déjà une peine de prison de 20 ans, condamnée en mars 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État. Son mari, Laurent Gbagbo, est actuellement jugé, lui, par la Cour pénale internationale de La Haye pour crimes contre l'humanité, pour des faits commis lors de cette même période post-électorale de 2010-2011.
Voilà, Simone Gbagbo a quitté, hein, Pascal Hérault, donc à la surprise générale, et le procureur Aliéo, que l'on a entendu dans le sujet, s'est aussi félicité quasiment d'avoir été désavoué, puisqu'il a aussi déclaré que cet acquittement démontrait la capacité de la Côte d'Ivoire à tenir un procès, dit-il, équitable. Indépendamment du verdict, cet avis du procureur est loin d'être partagé par les observateurs qui ont notamment parlé de procès chaotiques, voire de procès qui ne répondaient pas du tout aux standards internationaux.
Oui, tout à fait. Il y a eu ce procès a été remis en cause. On a bien vu la défense l'a même boycotté pendant très longtemps. Il a été plus ou moins chaotique. Du côté de Simone Gbagbo, on parlait de pièces de théâtre. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit condamnée. Elle ne l'est pas. Je crois qu'il faut respecter la décision du jury populaire. Ils ont décidé en leur âme et conscience. Effectivement, ça ne satisfait personne. En dehors peut-être des partisans du Front populaire ivoirien, mais le camp Ouattara essaye de récupérer les choses en disant bon, c'est peut-être notre justice est indépendante, c'est la preuve qu'elle a pris une décision qui n'allait pas vraiment dans notre sens, parce qu'il faut rappeler que le procureur requérait la prison à perpétuité. Maintenant, les associations de victimes veulent son transfert devant la Cour pénale internationale. Je pense que le pouvoir ne va pas y accéder. On sait très bien qu'Alassane Ouattara, à l'époque, avait refusé de le faire parce qu'il ne voulait pas être le premier président à envoyer une femme devant la CPI. Je pense personnellement que les jurés ont peut-être estimé qu'il y avait un manque de preuves. Et je pense qu'à la CPI, c'est aussi un peu le problème qu'aura peut-être le procureur. Il faut savoir que...
Dans le procès de Laurent Gbagbo,
que ce soit Simone ou Laurent Gbagbo, ils ont créé leur parti, le FPI, en 82, avant qu'il soit reconnu en 88, dans la clandestinité. C'est un mouvement marxiste-léniniste à la base. Beaucoup de réunions se faisaient en secret, et cette culture du secret existait même aussi dans l'exercice du pouvoir. Je ne pense pas que Laurent Gbagbo ou Simone Gbagbo aient donné des ordres écrits pendant la crise crise post-électorale pour qu'il y ait une répression. Et c'est bien toute la difficulté qu'on a à juger ces deux personnalités.
Et là, la plupart des témoignages ne sont pas non plus crédibles, hein, ceux qui ont été appelés à la barre lors de ce procès de Simone Gbagbo, de même que les avocats qui ont parlé de la disparition de plusieurs pièces du dossier d'accusation. Bref, alors, lorsque le procureur nous dit, Marie-Roger, que ce verdict va contribuer à la réconciliation nationale, c'est presque un aveu que finalement certains aspects de ce procès étaient politiques.
Oui, alors ce qui frappe vraiment dans ce verdict, c'est que personne n'est content. Personne. C'est-à-dire, du côté de Simone Gbagbo, ses avocats, ils critiquent le procès lui-même. Au lieu de se dire, ben voilà, on est acquitté. Bon, évidemment, il y a quelqu'un qui a dit, ben nous sommes satisfaits parce que, mais immédiatement suivi de critiques. Et de l'autre côté, du côté des victimes, évidemment, tout le problème reste sur la table. Qui est responsable des 3000 morts? Qui est responsable du bombardement du marché à Abidjan, etc. Il y a donc ce problème. Et ça montre la difficulté à faire justice. C'est extrêmement difficile. Une situation où on se dit Simone Gbagbo a des responsabilités, mais alors comment les prouver? Oui, mais il faut faire justice. Alors on a un procès qui est plus un rituel qu'une manifestation de la vérité. Et on aboutit à quelque chose d'hybride qui, à la fois, nous rappelle que Simone Gbagbo était une femme politique. On est dans un contexte politique, même si on veut dire que c'est un procès de droit commun, c'est pas vrai. Et en même temps, le malaise de ceux qui doivent la juger et qui lui ont déjà donné 20 ans et qui se disent peut-être qu'il ne faut pas trop charger la barque, que Simone était un personnage secondaire.
Ça ne paraît pas comme une sorte de martyr.
Exactement. Et puis,
ce qu'elle est d'ailleurs d'une certaine manière, en tout cas aux yeux de nombre de ses partisans. Cela dit, donc, acquitté David par un jury ivoirien, par la justice ivoirienne, mais la CPI, on l'a dit dans le sujet, n'abandonne pas les poursuites contre Simone Gbagbo pour les mêmes motifs, c'est-à-dire crime de guerre présumé, crime contre l'humanité, tout comme cette CPI poursuit son époux, donc pour ces mêmes motifs. Alors, est-ce qu'on peut parler d'acharnement, comme le disent certains partisans de Laurent et Simone Gbagbo?
Non, on ne pourra pas parler d'acharnement, d'autant plus que le ministère public lui-même adoube déjà cette façon de voir.
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas d'acharnement de la part de la CPI, de la Cour pénale internationale?
Ah oui, de la CPI, oui, on peut le penser. Mais moi, par rapport à cet acquittement, j'ai un double sentiment. D'abord, comme une sorte de déni de justice. Quand je dis déni de justice, il y a bien eu les escadrons de la mort, ce n'était pas une fiction. Il y a eu combien de milliers de morts?
Sa culpabilité n'a pas été reconnue.
Non, elle n'a pas été reconnue.
Les preuves n'ont pas été là.
Elles n'ont pas été là. Mais en tout cas, on peut se poser la question sur la question de la justice, du règlement judiciaire, de la crise politique en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, les gens semblent mettre la réconciliation à l'avance parce qu'effectivement, on a le sentiment qu'on jugeait les présumés coupables d'un camp, mais de l'autre camp, rien n'a encore été véritablement engagé. Donc on peut se dire que peut-être c'est l'idée de ce qu'on appelle la justice transitionnelle qui se met en place quand on a des difficultés, par exemple, pour sanctionner les présumés coupables de tous les camps, bon, qu'on aille vers une démarche de réconciliation.
Alors cela étant, Pascal, un point sensible, un point central, c'est-à-dire aucun des partisans d'Alassane Ouattara, il y a eu des escadrons de la mort, mais pas seulement d'un seul côté, n'a été inquiété dans ces violences, cette crise post-électorale. Et que le fait que les autorités ivoiriennes refusent désormais, depuis Gbagbo, de livrer d'éventuels accusés à la CPI, en fait, c'est une manière, selon les détracteurs du pouvoir ivoirien, c'est une manière aussi de préserver leurs partisans.
C'est peut-être l'un des aspects psychologiques, peut-être latent, qu'il y avait dans l'esprit des jurés. À savoir que cette justice, la justice qui est mise en œuvre depuis le début, n'a touché qu'un camp, que les partisans de Gbagbo. On sait très bien, tous les rapports d'ONG l'ont dénoncé, plus de 3000 morts au bas mot pendant cette crise post-électorale, et les responsabilités sont partagées. Les anciens seigneurs de guerre, les ex-rebelles, sont aujourd'hui à des postes de très haute responsabilité. Certains ont été pointés et du doigt, ils ne font l'objet d'aucune sanction, d'aucune poursuite.
Ni au niveau national, ni au niveau international.
Alors même qu'il y a eu une commission d'enquête nationale qui a rendu ses conclusions. Donc derrière tout ça, je pense que les jurés ont voulu peut-être rétablir un peu d'équité et puis demander que ce travail de réconciliation, parce que les recommandations de la commission Vérité et Réconciliation ne sont pas non plus toutes appliquées. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça va être très difficile maintenant à la CPI pour le procureur. La stratégie du procureur, c'est démontrer l'existence d'un plan commun avec à la tête le chef de l'État, Laurent Gbagbo, et un certain nombre de personnalités qui ont œuvré à ce plan commun. À partir du moment où, en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo est acquittée de crimes de guerre et contre l'humanité, c'est le même crime pour lesquels Laurent Gbagbo et Charles Bégoudé sont poursuivis à ces pays, ça va rendre beaucoup plus difficile la démonstration de ce plan commun.
Voilà. RFI TV 5 Monde, et l'on passe au deuxième sujet d'Afrique Presse, le Mali, cette drôle de conférence d'entente nationale, conférence émaillée, Marie-Roger, de boycottage en série. Alors ce forum s'est ouvert à Bamako, on le sait, ce lundi, dans un contexte sécuritaire très dégradé, avec des attentats quasi quotidiens, et fermera ses portes dimanche 2 avril. Alors, il devait, ce forum, marquer une étape clé de la mise en œuvre de l'accord de paix dit d'Alger sur le Nord Mali. Hélas, tout le monde n'est pas au rendez-vous, à commencer par l'opposition, mais on note aussi que les réfugiés, qui sont des centaines de milliers dans les pays voisins du Mali, ne sont pas représentés.
Il y a tellement d'intervenants et on a du mal à voir qui contrôle un petit peu la situation. C'est-à-dire, il y a différentes forces en présence qui sont parfois équivalentes, alors qu'on aimerait que ce soit le pouvoir central, évidemment, qui ait la main sur le règlement de cette crise. Mais on ne fait qu'assister à sa faiblesse généralisée et on voit le fractionnement, le morcellement de l'opposition. Des groupes naissent presque tous les jours. Il y a les groupes armés.
Des décisions sont contestées.
Les décisions sont contestées. Mmh. Des autorités sont tuées. Dans l'autre camp aussi, des assassinats ciblés. Et on a une situation plus dégradée qu'avant les accords d'Alger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un a une visibilité sur ce qui peut se passer au Mali aujourd'hui.
Alors vous partagez, David, le point de vue de Marie-Roger, donc selon lequel finalement le président Ibeka, le gouvernement, ne contrôle pas grand-chose. Il faut dire aussi que d'une certaine manière, ce pouvoir est un peu sous une tutelle internationale, c'est-à-dire lié aux accords d'Alger, lesquels accords d'Alger sont parrainés par la France, l'ONU et j'en passe.
Avec une présence de l'AMUNISMA et de forces étrangères sur le territoire. Absolument. Malien. Moi, le sentiment que j'ai par rapport à cette conférence d'entente nationale, c'est que j'ai le sentiment que c'est une rencontre préparatoire. Quand je dis une rencontre préparatoire, elle devait accoucher d'une charte de la réconciliation, de la paix et de l'unité nationale. Mais, à mon avis, on s'achemine plutôt vers des résolutions, des recommandations pour aller discuter encore. Et avec encore des bases plus élargies, avec l'opposition qui n'était pas là, le groupe qui n'était pas du tout présent. Je me pose la question, à quand on va passer effectivement à la mise en œuvre
des accords d'Alger, les accords de paix.
Voilà. En même temps, pendant que se tient cette conférence, il y a des attaques, mort des gendarmes. On se pose la question, est-ce que la réconciliation, c'est demain la veille?
Voilà, à quand la stabilité du Mali? Alors, Pascal, certaines organisations de la société civile malienne ont clairement dit qu'elles refusaient de s'asseoir à un même forum qu'avec des groupes armés, lesquels groupes armés refusent toujours l'autorité de l'État dans un certain nombre de zones, notamment du nord du pays. Je pense à Kidal, où règne en maître la coordination des mouvements de l'Azawad, qui regroupe donc plusieurs groupes armés.
C'est toute la difficulté de la mise en place de ce processus de paix. On est 4 ans après l'opération Serval, presque deux ans après la signature des accords d'Alger. Ça devait aller beaucoup plus vite. On devait avoir un désarmement, on devait avoir un cantonnement. On a un début de brigade mixte. Tout début dans les 5 régions du nord de redéploiement de l'administration. Mais personne n'est dupe. Tout ce qui est en train de se négocier là, c'est un partage du pouvoir au nord. On voit bien que certains rebelles d'ex-MNLA ne sont pas inclus, ne sont pas partie prenante de cet accord et maintenant revendiquent à Tombouctou. Ils ont encerclé récemment Tombouctou, leur part du gâteau. Ce qui est extrêmement complexe, c'est que ces groupes armés, il y a des recompositions perpétuelles. Et comme les politiques ont aussi instrumentalisé certains groupes et mouvements ethniques, pense dans la région de Gao notamment, la situation est beaucoup plus complexe qu'elle l'était dans les années 90, où il y avait 2-3 leaders de la rébellion Touareg, et on se mettait à table avec eux, on discutait d'une feuille de route et on arrivait. Là, maintenant, vous avez peut-être 10 10 mouvements à peu près, ou une quinzaine représentés, chacun avec ses propres revendications. Certains peuvent être un jour pro-Bamako, le lendemain ils deviennent pro-Touareg. Ouais. Il y a des liens aussi avec les groupes terroristes, et je pense à Ansardine, le Front de Libération du Massina, et les gens d'ACMI qui viennent de scinder et de se regrouper. La situation, c'est un vrai foutoir, et je souhaite bien du courage aux autorités maliennes et à la communauté internationale.
Voilà, juste un dernier mot, mais brièvement, David, sur le fait que les réfugiés ne sont pas représentés à cette conférence d'entente nationale à Bamako.
En tout cas, ils sont des milliers de réfugiés au Mali, au Burkina Faso, au Niger.
Avec le sentiment d'être oublié, finalement.
Voilà, avec le sentiment d'être oublié. Mais il faut dire aussi que la question n'est pas si simple, parce que souvent, eux-mêmes, ils ne sont pas volontaires, souvent, au retour.
Voilà. Et l'on passe au dernier sujet d'Afrique Presse. La fin annoncée de cette traque par les forces spéciales américaines de Joseph Kony, le chef de la rébellion ougandaise de l'armée du Seigneur, la LRA, rendu responsable, tenez-vous bien, de la mort d'au moins 100 000 personnes en 30 ans. David, l'opération anti-LRA de l'armée américaine, ordonnée en 2011 par l'ex-président Barack Obama, aura coûté entre 600 et 800 millions de dollars au budget américain. Alors, dans ces conditions, est-ce que son arrêt ne reflète pas, somme toute, aussi la politique de Donald Trump de songer d'abord à l'Amérique et puis surtout de faire table rase de l'héritage de son prédécesseur afro-américain?
En tout cas, American first, l'Amérique d'abord. Trump veut repositionner l'action des États-Unis à l'étranger autour de ses intérêts stratégiques. Or, l'Ouganda et les Grands Lacs représentent à peine 1,5% des exportations des États-Unis. Donc, on peut se dire que l'homme d'affaires qui tient les rênes des États-Unis peut trouver que 800 millions de dollars.
C'est beaucoup trop.
Mais je vois en ça un risque. Est-ce que le départ de 200 membres de forces spéciales, avec tous les moyens qu'ils ont sophistiqués, ne va pas redonner du poil de la bête au LRA, qui était somme toute affaibli et qui a vu beaucoup de défections de ses rangs et beaucoup de deux commandants qui ont été donc capturés et jugés actuellement au niveau de la CPI.
Voilà. La LRA sans doute affaiblie, peut-être, mais pas du tout annihilée au cours de ces 6 années d'opération des forces spéciales en Ouganda et dans les pays voisins, Marie-Roger.
Oui, parce qu'il y a même, il y a quelques jours, on a encore, il y a un des responsables de la LRA qui s'est rendu aux troupes, aux forces ougandaises en RCA. C'est la débandade.
Alors, Pascal, juste rapidement, Joseph Kony, donc, n'a jamais été capturé, mais un de ses lieutenants, Dominique Ongwen, est actuellement jugé par la Cour pénale internationale. Alors, ce monsieur a été capturé et embrigadé par la LRA lorsqu'il était adolescent, et puis s'est avéré un chef de guerre, pareil, sanguinaire comme Kony.
C'était la stratégie de Joseph Kony, recruter des enfants soldats et puis en faire des monstres. Ça a duré pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, avec plus de 100 000 morts selon les Nations Unies, entre 60 000 et 100 000 enfants recrutés. Bon, le procès devant la CPI va permettre de lever le voile et puis de rappeler toutes les exactions commises. Dans la décision de Donald Trump, moi je pense qu'il y a aussi un aspect politique intérieur. Effectivement, c'est American First, montrer aux États-Unis que il y a des priorités, on ne dépense pas leur argent. Et puis très franchement, depuis 2006 quand même, la guerre est finie en Ouganda et la LRA s'est fait beaucoup plus discrète. Peut-être reste-t-il une centaine de membres. Ce qui est important, c'est que Donald Trump s'est engagé à poursuivre
la lutte contre le terrorisme
au Sahel, et les pays de la région ont reçu des assurances que la coopération américaine se poursuivrait.
Voilà, parce que le terrorisme menace directement la sécurité intérieure américaine, comme chacun le sait. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Afrique Presse. Afrique Presse qui s'associe aux nombreux hommages rendus à Laurent Sadou, le journaliste de RFI, mon confrère, dont on a appris la mort ce jeudi à l'âge de 51 ans. Laurent a été pendant une quinzaine d'années le présentateur très suivi d'Afrique Midi en semaine. Avec lui disparaît une voix captivante de RFI ainsi qu'un confrère attachant. Voilà, nos condoléances attristées à sa famille et à ses proches. Merci Pascal Hérault, Marie-Roger Biloa, David Chambiano, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez réécouter ou revoir cette émission sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse. Rendez-vous à la semaine prochaine.